Vendredi après-midi, dans une salle de conférence perdue au milieu des montagnes du Wyoming, il y a un type en cravate bleu clair qui a prononcé une phrase de 11 mots. 11 mots. Et en un quart d'heure, juste un quart d'heure, le marché obligataire américain a réécrit toute sa feuille de route pour le reste de l'année 2026. L'or s'est mangé un train à grande vitesse, le dollar a signé sa plus forte hausse depuis 2 mois et demi, et les probabilités d'une hausse des taux en septembre sont passées d'improbable à oups, on l'avait pas vu venir celle-là. Et tout ça pendant que vous vous disiez que ce week-end, ce dernier week-end d'août, allait être plutôt pas mal. Alors on va faire un truc aujourd'hui, on va prendre ces 11 mots, on va les décortiquer et je vais vous montrer pourquoi. Ce discours-là, celui de vendredi, eh bien on va probablement en parler encore pendant 2 ans. Pas autant que le discours de l'irrationnelle exubérance de Greenspan, mais quand même. Et accessoirement, ce week-end, l'armée américaine a recommencé à bombarder l'Iran et Donald Trump a braqué le Venezuela. Enfin, son pétrole. Enfin, on va voir ce qu'il a acheté exactement parce que là, ça devient franchement n'importe quoi. Mais faut pas dire que Trump, il fait n'importe quoi, sinon cette année, le shopping à New York pour Noël, c'est foutu. Restez donc bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la dernière histoire que je vais vous raconter, c'est probablement le montage financier le plus gonflé de l'année, le plus culotté, le truc qu'on n'aurait pas osé faire pendant les subprimes et il porte le nom d'une pâtisserie. Bienvenue dans ce Morning Bull Live du lundi 31 août 2026. Je suis Thomas Veillet, nous sommes le dernier jour du mois, demain on range le barbecue et on entre en septembre, le mois que les statisticiens appellent poliment le mois comme étant historiquement défavorable et les autres disent que c'est la saison des crashs.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon d'abord, on va planter le décor pour ceux qui étaient encore au Nikki Beach ce week-end. Kevin Warsh, c'est donc le patron de la Réserve fédérale américaine, la Fed. Il est arrivé en mai et depuis mai, Wall Street essaye de comprendre comment ce type fonctionne, essaye de le décoder. Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est mou? Est-ce qu'il fait ce que Trump lui demande? Est-ce qu'il est dovish? Est-ce qu'il est hawkish? C'est pas clair du tout. Enfin, c'était pas clair jusqu'à vendredi dernier. Jusqu'à vendredi dernier, personne ne savait vraiment parce que sa marque de fabrique depuis le premier jour, c'est de ne rien dire. Le gars, il est taiseux. Mais vendredi, il a parlé et cette fois, il a dit quelque chose. Alors il a dit « J'aurais bien de la peine à décrire les conditions financières actuelles comme étant restrictives ». Alors dit comme ça, ça ressemble à du langage de banquier central, ça sonne poli, ça sonne prudent, ça sonne comme un truc qu'on dit quand on n'a rien à dire. Sauf que non, la traduction pour ceux qui ont passé un CFA et les autres, c'est « les taux ne sont pas assez hauts ». C'est tout. C'est ça qu'il a exprimé, c'est ça qu'il a dit devant 200 autres banquiers en polaire et en chaussures de rando dans le Wyoming, un vendredi, au moment où tout le monde pensait déjà au week-end. Et le marché, lui, il a compris immédiatement. Le marché a surtout compris qu'on avait changé les règles du jeu. Jusqu'à vendredi, la règle du jeu, c'était la Fed ne bouge pas et elle ne monte les taux que si les chiffres économiques l'obligent à le faire. Et depuis vendredi, la Fed monte les taux, sauf si les chiffres montrent que c'est pas nécessaire. Vous voyez la différence ? Sur le papier, c'est une nuance de vocabulaire, un truc pour économistes qui s'ennuient. Dans les faits, ça change complètement. C'est qui doit prouver quoi ? Alors, je vous fais l'image, hein. C'est la différence entre un flic qui doit trouver une bonne raison de vous coller une amende et un flic qui vous colle l'amende d'office, sauf si c'est vous qui arrivez à lui trouver une bonne raison de ne pas le faire. Vous en conviendrez, c'est pas tout à fait pareil. C'est un ancien vice-président de la Fed qui a formulé ça comme ça et c'est plutôt pas mal. Pour moi, c'est la déclaration la plus importante et la plus intelligente de ces 3 derniers jours. Beaucoup plus importante que tous les commentaires que vous allez encore lire ce matin sur le ton hawkish de Kevin Warsh. Et puis, il y a un passage dans ce discours dont presque personne n'a parlé et honnêtement, je comprends pas très bien pourquoi. Parce que Warsh a dit, je cite, hein, « La responsabilité de 65 mois d'inflation élevée et persistante au-dessus de la cible repose directement sur la banque centrale. » 65 mois, c'est 5 ans et demi. Et il ajoute que c'est là, la responsabilité, elle doit rester là, sur la banque centrale. Alors, on va s'arrêter juste 2 secondes là-dessus. Oui, parce que c'est un patron de banque centrale qui monte sur scène devant tous ses collègues pour expliquer que l'inflation qu'on se traîne depuis 5 ans et demi, c'est pas de la faute de Poutine, c'est pas de la faute des chaînes logistiques, c'est pas de la faute des Chinois, c'est pas de la faute des tarifs douaniers, c'est pas de la faute du prix du baril, ni de l'alignement des planètes, ni des conneries de Trump. C'est la sienne. Enfin, celle de la Fed. Et surtout celle de son prédécesseur. Il faut être honnête. Alors moi, vous le savez, ça fait plus de 30 ans que je regarde ces mecs parler.
Et d'habitude, quand un banquier central monte sur scène, c'est plutôt pour arriver en pompier. Il vient expliquer qu'il y a un incendie et que c'est pas lui qui l'a allumé. Mais qu'heureusement, il est là avec sa lance et son casque. Prendre la responsabilité des problèmes sur son dos, ça, c'est complètement nouveau. Et ça veut dire qu'il a l'intention de faire quelque chose. Après, il y avait aussi la partie que j'ai personnellement préférée. Warsh déteste la forward guidance. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est quand la banque centrale vous explique à l'avance ce qu'elle va probablement faire dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 8 ans. C'est un peu comme la météo. Probablement, peut-être, mais c'est même pas sûr. C'est plus ou moins une invention de la crise de 2008. À l'époque, tout le monde paniquait, il fallait rassurer, donc les banques centrales se sont mises à raconter leur vie comme sur le divan d'un psy. Sauf que 18 ans plus tard, on ne s'est jamais arrêté. Et une génération entière de traders a grandi là-dedans. Ils se demandent même pas ce que fait l'économie, ils se demandent ce que va dire la Fed. Ils ont été bercés au son des paroles des banquiers centraux et probablement bercés, pour certains, un peu trop près du mur. Warsh, lui, il a dit « La forward guidance a largement dépassé la microdata ». Bon, il n'a pas dit ça comme ça parce qu'il ne sait pas ce que c'est la micro, mais vous comprenez l'idée. En gros, ça fait trop longtemps que tu squattes le canapé, mon gars, tu prends tes affaires, ton sac à dos et tu te casses, tu rentres chez toi. Et il met même un nom sur la maladie. Il appelle ça le palais des glaces. Le principe du palais des glaces, c'est le suivant, selon Kevin Warsh. La Fed regarde le marché regarde la Fed regarde comment le marché a réagi à ce qu'elle a dit, et le marché regarde comment la Fed interprète la réaction du marché à ce qu'elle avait dit. Et à la fin, tout le monde se regarde dans la glace, et plus personne ne regarde ce que fait l'économie. Sa phrase de conclusion est magnifique. Je cite, « Je suis engagé envers une discipline et pas envers une décision. » Traduit dans la langue qui ne fait pas de langue de bois, ça veut dire « démerdez-vous ». Regardez l'économie, moi aussi c'est ce que je vais faire, et arrêtez de croire que nous, les banquiers centraux, on sait mieux que vous. Pour une génération entière de traders élevés au lait maternel de la Fed, le sevrage va être très, très, très sportif. Je vous garantis qu'il y a des gens, des analystes, des stratégistes, des économistes qui n'ont pas passé un bon week-end parce qu'ils vont devoir réfléchir dorénavant. Bon, on va pas s'emballer non plus, hein, parce que Warsh n'a pas tout réglé en 20 minutes de discours, il faut être honnête. Oui, parce qu'il y a une banque qui a résumé toute l'affaire en 3 mots, que je trouve absolument parfait. Talk is cheap. Parler, ça ne coûte rien. Et c'est vrai, Warsh a fait un discours. Il a récupéré de la crédibilité et le marché l'a cru. Sauf que maintenant, il est coincé, il a les mains liées et il a quasiment l'obligation de monter les taux le 16 septembre. Parce que s'il ne le fait pas, alors là par contre en une matinée, tout ce qu'il vient de gagner en 20 minutes, il va tout perdre. Et deux grandes maisons de Wall Street ont déjà revu leur copie, elles attendent une hausse en septembre et une hausse en décembre. Et vous savez ce qu'il y a de plus drôle dans tout ça? Une hausse des taux en septembre, ça tomberait quelques semaines avant les élections de mi-mandat. Et ça contredirait frontalement le discours de la Maison-Blanche qui explique depuis des mois que l'inflation est totalement sous contrôle. Donc réponse le 16 septembre et d'ici là, n'attendez pas un mot de plus. C'est silence radio. C'est justement tout le principe. Du côté du marché obligataire, eh bien, vous l'avez vu, on en a parlé ce week-end, le 2 ans a bondi de 12 points de base à 4,35, mais le 30 ans, lui, il n'a pas bougé, il reste plus ou moins à 5,20, ce qui veut dire que la courbe s'aplatit. Et ce que ça raconte est très flatteur pour Warsh, le marché lui a dit « je te crois, tu vas serrer la vis maintenant et tu vas finir par tuer l'inflation plus tard ». C'est exactement la réaction dont rêve un patron de la Fed lors de son premier Jackson Hole. Mais il y a juste un petit détail. C'est pas l'inflation qui a fait exploser les taux longs ce mois-ci. C'est la dette, le déficit, le mur d'émission du trésor et les géants de la tech qui viennent emprunter des centaines de milliards pour leur data center, dont exactement la même poche que l'État américain. Autrement dit, Warsh a gagné brillamment un combat que le marché obligataire n'était même pas en train de mener. Et sur les 6800 milliards du bilan de la Fed, qui est la vraie question du moment, silence radio. Bon, maintenant, changement de décor. Parce que pendant qu'on décortiquait tout ça, la guerre a repris. Oui, la semaine dernière, le CENTCOM nous annonçait fièrement que le déminage du détroit d'Ormuz était terminé. Voie maritime internationale ouverte, la dynamique s'installe, tout va bien. Ce week-end, les Américains ont détruit deux lanceurs iraniens sur l'île de Larak, des lanceurs qui s'apprêtaient à balancer de nouvelles mines dans le détroit. Donc, on démine, ils veulent reminer, bam, on frappe. C'est un déneigement en pleine tempête, et c'est la première frappe américaine depuis le 29 juillet, alors que depuis un mois, la stratégie officielle, c'était de passer à la pression économique. Le secrétaire au Trésor nous promettait de la violence financière, on a eu de la violence tout court. Téhéran a répondu dans la foulée avec 8 missiles balistiques sur les bases américaines en Jordanie. Tous ont été interceptés. Et le résultat pour nous, dans nos vies, eh ben, le Brent est à 90,40$ ce matin, le WTI à 85,40$, et le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a précisé que Téhéran n'était pas pressé de rouvrir le détroit. Alors je vous laisse deviner ce que ça va donner sur le prix du plein et sur le prix du mazout pour cet hiver. Et si vous voulez, le vrai cauchemar de Kevin Warsh, c'est même pas le baril, c'est que les soft commodities, les trucs qu'on bouffe, hein, pas ceux qu'on met dans le réservoir, sont toutes en train de prendre l'ascenseur en même temps. Une inflation qui revient par des canaux sur lesquels une hausse des taux n'a strictement aucun pouvoir. Et puis alors maintenant, on va attaquer la partie que j'adore ce matin, celle qu'on va appeler le braquage du siècle. Vendredi soir, Washington a signé le truc le plus fou de cette décennie. Au moins cette décennie. Les États-Unis prennent donc le contrôle majoritaire, 55% d'une société créée pour l'occasion avec un bail de 100 ans, sur 65 milliards de barils de réserves vénézuéliennes. Et Trump, bien sûr, a posté que cette transaction historique va plus que doubler les réserves pétrolières américaines et qu'elle va faire baisser substantiellement le prix de l'essence pour tous les Américains. Il appelle ça un cadeau du Venezuela au peuple américain. Un cadeau pour lui, pour moi j'appelle ça le braquage du siècle. Sauf qu'il y a un problème, et il est énorme. Mais évidemment, Trump s'est abstenu d'en parler parce que ça aurait fait mauvais genre. Je vous explique. Le Venezuela est donc assis sur les plus grosses réserves de la planète, et il pompe aujourd'hui 1,2 million de barils par jour. L'Arabie Saoudite a deux fois moins de réserves, et elle pompe 9 fois plus. Doubler ses réserves avec du pétrole vénézuélien, c'est doubler la taille de sa cave à vin. Ça ne vous dit rien sur le nombre de bouteilles que vous arriverez à ouvrir ce soir, surtout quand votre tire-bouchon est cassé depuis 20 ans. Oui, parce qu'au-delà des grands titres des médias qui saluent le deal extraordinaire, donc le Picsou, il faut que je vous parle de ce pétrole. Et là, je pense que même si Coluche était encore vivant, il se serait avoué vaincu par une telle comédie. Le brut de l'Orinoco, ce n'est pas du pétrole, c'est du goudron. L'Orinoco, c'est 8 degrés API. L'Orinoco, c'est le nom du pétrole vénézuélien. L'échelle API, c'est une échelle de densité qui marche à l'envers. Plus le chiffre est haut, plus le pétrole est léger. Le pétrole du Texas, par exemple, c'est 40. Ça coule comme de l'huile d'olive. La référence, c'est l'eau. L'eau vaut 10 et le pétrole vénézuélien vaut 8. Donc ce truc-là est plus dense que l'eau. Donc il coule au fond du verre. Il ne circule même pas tout seul dans un tuyau, il ne se pompe pas, il se ramasse quasiment à la pelle. Donc vous me direz, mais alors, on fait comment pour qu'on puisse en faire quelque chose? Bah c'est assez simple globalement, sur le principe. Il faut le diluer avec du pétrole léger, un bon quart du volume. Et comme le Venezuela ne produit pratiquement pas de pétrole léger, il doit l'acheter à l'étranger. Oui, vous avez bien entendu, c'est magique. Et ça prouve vraiment que Trump nous prend pour des cons. Encore nous, ça va en Europe, mais il prend surtout son peuple pour des cons. Lui qui se prend pour the greatest president ever. Donc si on résume tout ça, les USA ont mis la main sur 65 milliards de barils et sur le pays qui détient les plus grosses réserves de pétrole du monde. Mais pour pouvoir vendre sa camelote, le Venezuela doit donc importer du pétrole. Et c'est pas tout! Il y a 19 ans, les 4 usines capables de transformer cette mélasse, alors je dis mélasse pour rester poli parce que j'ai en tête un autre mot qui commence aussi par M et qui fonctionnerait tout aussi bien, ces 4 usines capables de transformer cette mélasse en brut normal ont été nationalisées. Les opérateurs sont donc partis, les ingénieurs sont partis avec eux, et depuis, ces usines tournent quand elles veulent bien, au gré du vent et de l'ambiance du moment. Pour passer d'un million de barils produits par jour, il faudrait 100 milliards de dollars et une décennie. Le scénario optimiste, c'est 300 000 barils de plus d'ici fin 2008 sur une demande mondiale de 103 millions par jour. L'OPEP+ déplace 3 fois ça par téléphone un dimanche après-midi entre le café et le dessert. Et puis c'est pas fini, parce que si vous êtes déjà mort de rire à ce stade, attendez de voir le reste de la stratégie de l'autre clown. Trump veut s'en servir pour remplir la réserve stratégique américaine qui est au plus bas en ce moment. Sauf que la réserve stratégique, ce sont des cavités au Texas et en Louisiane qui stockent du brut autour de 35 degrés API. On ne verse donc pas du goudron à 8 degrés API dans une cavité à 35 en espérant le repomper le jour où on en aura vraiment besoin. Il faudrait donc le traiter d'abord pour pouvoir le mettre dans les réserves. Et pour le traiter, il faut importer du pétrole léger et faire tourner les 4 usines fantômes en question. Vous entendez la musique du cirque qui commence à monter tout au loin là ? Et puis alors voici le chiffre qui règle définitivement le débat. Caracas annonce 209 milliards de recettes fiscales sur l'opération. Divisé par 65 milliards de barils, ça fait 3,20$ le baril. Pour un baril dont l'extraction coûte grosso modo 30$. À ce tarif-là, on vend pas son pétrole, on l'offre avec le café quand tu viens faire le plein chez Total parce que cette fois, t'iras plus là-bas par hasard. Autrement, ce matin, l'Asie est faiblarde, les semi-conducteurs sont tout chafouin avec les taux qui vont monter aussi parce que le narratif de la pénurie de mémoire est intact, mais il n'a juste plus les moyens de payer les taux plus élevés. Quand le taux d'actualisation monte, ce sont toujours les mêmes qui passent à la caisse, ceux dont tous les bénéfices sont prévus pour 2029. Ceci dit, disons du bien pour une fois parce que c'est vrai, le mois d'août finit très bien, le Dow Jones gagne 2,1% pour l'instant, cinquième mois de hausse d'affilée, le S&P gagne 3%, le Nasdaq 4%, c'est leur premier mois positif depuis le mois de mai. Cette semaine, mercredi, nous aurons Broadcom après la clôture, le vrai test, un nouveau test de l'IA, j'ai envie de dire, et vendredi, l'emploi américain, 58 000 créations attendues après une destruction de 23 000 emplois au mois de juillet. Souvenez-vous, c'est ce chiffre-là qui décidera de septembre, même si on sait tous que ces chiffres-là sont du pipeau soigneusement réécrit par la Maison-Blanche. Et puis alors maintenant, pour terminer l'histoire que je vous ai promise au début, celle que je gardais pour la fin parce qu'elle est vraiment trop belle, Meta, Facebook, Instagram, tout ça, veulent construire 5 gigawatts de capacité de calcul en Louisiane. 5 gigawatts, c'est énorme. Comment est-ce qu'ils financent tout ça? Est-ce qu'ils empruntent comme tout le monde, sous leur propre nom? Non, pas du tout. Ils ont créé une société ad hoc, dedans 27 milliards de dettes, 3 milliards de fonds propres, Meta en garde 20%, et les 80 restants sont balancés chez des fonds privés. Alors maintenant, écoutez bien la suite, Meta va louer le data center, Meta va payer toutes les charges, et Meta portera la dette si elle décide de ne pas renouveler le bail. Alors si on fait le compte de tous les risques, un cinquième du capital, zéro dette au bilan, cette merveille d'ingénierie financière porte un nom officiel, ils l'ont appelé Beignet Investor. Beignet Investor. Et elle est notée quoi? A plus. Alors la prochaine fois qu'on vous expliquera à la télé que les géants de la tech financent l'intelligence artificielle avec leur trésorerie sans jamais s'endetter, vous vous souviendrez qu'il existe un véhicule de dette de 30 milliards baptisé comme une pâtisserie frite dont les flics sont traditionnellement friands aux States et qu'un A+, ça veut dire placement de bon père de famille. Donc ce truc-là a très probablement déjà atterri dans votre caisse de pension. Vous l'avez pas choisi, vous l'avez pas vu passer, mais il est là, tapis dans l'ombre, prêt à bondir. Voilà, nous sommes le 31 août, demain c'est le 1er septembre, le mois où statistiquement les marchés ont l'habitude de se souvenir qu'ils sont mortels. Le 16 septembre, Kevin Warsh devra prouver qu'il pense à ce qu'il a dit, et vendredi, on aura le chiffre de l'emploi qui va lui dire s'il a le droit de le faire. D'ici là, moi je vous conseille de surveiller le baril, et si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire, on like, on s'abonne, on partage, on commente, et la chronique complète avec tout ce que je n'ai pas eu le temps de vous raconter ici, elle est tous les jours, tous les matins, sur morningbull.ch, avant l'ouverture. Moi, je vous dis à demain, on a fait le meilleur mois depuis que je fais des vidéos chez Swissquote, les chiffres sont juste indécents. Alors, est-ce qu'on parie qu'on fait mieux en septembre? Surtout s'il y a un crash. Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.